gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Radio Exterior de España.
L'émission en français.
Confluence hispanique, frontière.
Marie Valin.
Frédéric Spielmaker.
Antoine Sénéchal.
Pierre Salmon.
Anneli Prudor.
Frontière, limite, barrière, lieu de passage.
Confluence hispanique.
Une collaboration Casa de Velázquez, Radio Extérieure d'Espagne.
Un programme proposé par Emmanuel Zor. Amis auditeurs, bonjour. Après l'expulsion des musulmans du royaume de Grenade et plus tard l'expulsion des morisques d'Espagne, la frontière hispano-maghrébine et hispano-ottomane se déplace de l'autre côté de la Méditerranée. Antoine Sénéchal, historien, membre scientifique de la Casa de Velázquez, nous invite à une incursion dans un des présides espagnols, Oran. Un double préside, insiste-t-il.
J'ai commencé mes études en histoire en m'intéressant au monde méditerranéen, qui m'a mené petit à petit à poser la question donc qu'est-ce qu'une frontière, ou plutôt quelles sont les frontières qui existaient en Méditerranée. C'est une thématique qu'aujourd'hui on perçoit encore à la télé, dans les journaux au quotidien. Un peu par hasard, lors d'un exercice de traduction, j'ai découvert une frontière que je ne connaissais pas, la frontière entre, on va dire, le monde hispanique et le monde nord-africain, à Oran. Grande ville actuelle de l'Algérie, qui à un moment donné de son histoire, au début du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, appartenu à la couronne espagnole.
Alors, appartenu à la couronne espagnole, mais elle était en fait possession de la Castille, ou possession plutôt aragonaise, au départ, première conquête.
Alors, sur le plan politique et juridique, elle a été rattachée à la couronne de Castille. C'est pour ça, en fait, que dans les archives que l'on peut consulter aujourd'hui, on va se repérer à partir de la classification, la nomenclature, qui a été produite par la couronne de Castille.
Et ces archives sont conservées où exactement ?
Alors, il y a...
Les amis qui voudraient en savoir plus, maintenant que beaucoup d'archives sont numérisées.
Tout à fait.
Donc, on peut y accéder.
Donc, en fait, les archives sur le sujet sont très dispersées, ce qui est valable, en fait, pour un grand nombre de sociétés, notamment sociétés urbaines méditerranéennes. Ça s'explique en lien avec les échanges qui ont été menés par les différents acteurs qui se sont intéressés aux activités qui étaient menées donc dans ces sociétés frontalières urbaines. En Espagne, on va trouver principalement une importante quantité d'archives à Simancas, au sud de Valladolid, qui est très réputée en fait parmi les historiens pour la qualité en fait de la conservation de ces archives, la qualité aussi du service qu'on nous propose. On trouvera également des archives à Barcelone, dans les archives de la Couronne d'Aragon. Également à l'Archivo Histórico de Madrid, on va trouver beaucoup de sources. À la Biblioteca Nacional, à la Biblioteca de la Real Academia, etc., etc. Mais il ne faut pas s'arrêter, on va dire, à ces archives très connues institutionnelles. Il faut aussi aller à l'échelon municipal et également voir ce que les anciens royaumes ibériques ont cédé de leur administration. Je m'explique, par exemple, En se rendant à Valence, on peut consulter en fait un ensemble de sources qui témoignent des connexions qu'avaient Oran et Mercel Kébir à l'époque de l'occupation hispanique avec la société valencienne, avec Alicante par exemple, ou avec même Elche. De même, si on s'intéresse par exemple au royaume de Murcia, on peut se rendre à Murcia, la ville même, à Cartagena, un port très important pour l'histoire de l'occupation hispanique d'Oran, et par exemple également à Yecla, ou d'autres villes plus à l'intérieur du royaume de Murcie.
On se situe exactement à l'époque de la conquête, de la première conquête, parce que la ville sera après perdue et reprise.
Exactement.
Et l'artisan de cette expédition, l'alma mater de l'expédition, ce serait le cardinal Cisneros.
Alors, c'est la figure qu'on a beaucoup retenue avec
l'idéologue.
L'idéologue. Après, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que c'est une entreprise que j'aime qualifier d'hispanique, au sens où elle rassemble un très grand nombre d'acteurs. Il ne faut pas avoir seulement des Castillans, notamment des Andalous, des gens de toutes les provinces du sud de la péninsule. Il faut également voir la participation d'Aragonais, de Navarrais, dont Pedro Navarro, mais également aussi probablement des Italiens, d'autres mercenaires, et il ne faudrait pas oublier enfin les populations locales nord-africaines qui ont participé à leur façon, en donnant des informations, en approvisionnant aussi cette armée qui se mettait en marche, etc.
Donc on pourra parler des Los Moros de Paz.
Exactement, ça c'est un terme très...
On verra comment lire cette donnée. Et donc d'abord, c'est le port de Mersel Kébir qui est conquis. Et ce n'est que 4 ans après, à peu près, c'est le port de Mersel Kébir est pris en 1505.
Exactement.
Et la ville d'Oran en 1509.
Elle tombe en 1509, oui.
Donc, ça a une explication, ça. C'est parce que Mersel Kébir était réellement un port.
Oui,
Oran n'avait qu'un...
La plage d'Oran est très difficile d'accès, on le voit encore dans les sources, c'est une plage qui est dangereuse, il y a quelques récifs, alors qu'à côté, Mersel Kébir dispose de la meilleure rade de cette partie de la Méditerranée. Donc en gros, de tout le bassin méditerranéen occidental, c'est une rade qui est très réputée, ce qui explique pourquoi les Français, en fait, à partir de 1830-1831, vont débarquer par ici, et ce qui explique aussi pourquoi, par exemple, la flotte française qui était réfugiée à Mersel Kébir a été, donc, à l'incident, bombardée.
Une fois prise au rang, on parle de double presidio.
Hmm? Oui.
Presidio, normalement, c'est là où on envoie les personnes, disons, turbulentes, peu recommandables, lorsqu'il s'agit de la noblesse, et puis où on envoie des détenus, des esclaves, etc., pour le reste de la population. À tel point que Oran, à un moment donné, vous parlez d'ennui et de lassitude, c'est vrai.
Mais... C'est quelques témoignages.
Quelques témoignages et tout ça, mais au départ, des nobles qui se sentaient un peu mal à l'aise, trop près du pouvoir ici, faisaient la traversée parce qu'ils voulaient mettre de la distance. Ensuite, il est vrai que la lassitude était terrible. Pourquoi ?
Alors, c'est une question qui est assez difficile à résoudre. En effet, on a l'impression, en lisant notamment les œuvres littéraires du siècle d'or, que, en gros, le préside d'Oran et de Mersel Kébir représentait un petit peu une ambiance qu'on peut percevoir aujourd'hui dans le désert des Tartares. Enfin, sorte d'ennui, on attend, etc. Les conditions de vie sont souvent très difficiles, les pénuries sont nombreuses. Il y a une expression espagnole qui est très frappante, qu'on retrouve souvent dans les sources, c'est « desnudos de carne ». Donc, pour dire que les soldats souvent vivaient dans des conditions au quotidien difficiles. Les pluies à Oran et Mersel Kébir sont parfois redoutables. L'hiver, elles peuvent être très fortes, ce qui peut emporter les fortifications, ou les maisons, ou d'autres bâtiments. Et à l'inverse, les étés sont parfois très aride, et il y a des périodes d'aridité qui peuvent s'étendre, on le voit, on en a les témoignages, de mars jusqu'à novembre. ce qui veut dire que l'eau vient à manquer. Or, Oran et Mers-el-Kébir, c'est aussi un endroit où il y a donc une ciela, des montagnes, où l'eau en fait est réputée pour sa qualité. Donc quand l'eau vient à manquer, c'est un problème, parce que c'est aussi pour ceux ce qui a permis que les Espagnols tiennent. C'est parce qu'il y avait aussi de l'eau potable disponible.
À part le premier moment de la conquête, où il y a un heurt très grand entre les populations locales et les Espagnols, après c'est pratiquement le calme plat. Et c'est pour ça que j'adore votre référence au désert des Tartares. L'ennemi ne vient pas forcément.
C'est tout à fait ça. C'est une question qui embrasse l'ensemble des études que l'on mène en tant qu'historien, historienne sur la Méditerranée. C'est cette idée que les populations vont être à la fois dans une confrontation qui va pouvoir être extrêmement violente, extrêmement spectaculaire, ou des fois des confrontations, on va dire, de guerre de plus basse intensité. C'est la fameuse économie de la rançon, donc la piraterie, la course sur mer, et également les razzias sur terre, donc une pratique de prédation qui est aussi connue des populations asiatiques de la péninsule arabique et du monde tribal en général. Et à côté de cela, il y a cette angoisse de « est-ce que l'ennemi va venir ?» C'est-à-dire que les soldats, les gouverneurs d'Oran vont envoyer de très nombreuses lettres aux autorités monarchiques qui siègent à Madrid sur la rumeur d'une menace. Cette année, c'est sûr, le siège va être mis devant Oran. Les Algéro-Ottomans, donc les forces algéroises, vont venir. À la fin du XVIIe siècle, ce sera plutôt les forces marocaines qui avaient fait une percée dans tout l'ouest algérien qui vont conquérir. C'est une attente, une angoisse. Il faut également s'imaginer que la gestion de ce préside était menée par cette angoisse.
Yo el mi pandero tango voz y pienso en al tan 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 tan. Si vos pandero supieses de dónde viene mi mal.
Ces présides qu'installent aussi bien d'ailleurs l'Espagne que le Portugal, même s'il y a certaines composantes qui sont différentes, le Portugal occupe aussi un certain nombre de points de la côte marocaine, dont Ceuta. Mmh. Ce sont des conquêtes qui se font avec beaucoup de fracas d'armes et tout ça. Mais ce sont des conquêtes qui, vues militairement, semblent plus un problème qu'une solution. Mais n'est-ce pas parce que les Espagnols et les Portugais, ici en Méditerranée, n'avaient aucune intention d'occuper le territoire ? Ils se suffisaient, en fait, de points. C'était vraiment la frontière, comme la frontière médiévale qui a bougé dans la péninsule pendant des siècles, qui s'est déplacée et qui maintenant s'est déplacée de l'autre côté de la Méditerranée. N'est-ce pas comme ça que vous le percevez ?
Alors oui, c'est un des thèmes qui est très discuté et qui est vraiment passionnant. Je pense que c'est vraiment une question fondamentale en fait sur le sujet de ce que j'aime bien appeler la frontière ibéro-maghrébine, qui est donc une sorte de vaste aire. On pourrait même parler d'une sorte de région systémique, au sens où une région qui n'est pas seulement une ligne, mais un ensemble d'éléments qui réagissent les uns avec les autres, un peu comme un organisme, et qui évoluent avec le temps, et qui des fois peuvent prendre, on va dire, une expansion territoriale énorme, comme par exemple lors de l'occupation arabo-musulmane de la péninsule ibérique, lors de la mise en place des empires almohades et almoravides, ou qui peuvent prendre par exemple une expansion plus difficile à cerner au niveau territorial, comme à l'époque moderne, on ne sait plus trop où la situer. Ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est une frontière qui est mouvante, qui reste mouvante. Et ça, c'est pas évident de le percevoir à première vue, puisque lorsqu'on pense à un préside, on voit de première vue les murs, les fortifications. Ça implique une rupture avec l'environnement nord-africain. Or, comme vous le dites, à certains moments, il y a des relations pacifiques nécessaires à la survie du quotidien. Un exemple tout bête, il faut s'approvisionner en nourriture. Or, les conditions de navigation en Méditerranée ne permettent pas toujours d'assurer un ravitaillement serein. On connaît très bien les tempêtes, on pense par exemple à Ulysse qui a dévié dans toute la Méditerranée. Cette problématique est très forte dans le détroit de Gibraltar. Ça reste encore des eaux qui sont malheureusement très dangereuses. On a des exemples au quotidien avec les noyades, etc. À l'époque, donc, il fallait s'approvisionner avec les voisins. Qui étaient les voisins ? C'était les tribus arabo-berbères. Ces tribus vivaient dans un univers mobile ou semi-mobile, donc il fallait s'adapter aussi. Et les Espagnols vont s'adapter aussi à cet univers. C'est quelque chose qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est l'adaptation, en partie, des forces, des présences portugaises et hispaniques au monde maghrébin, qui est un monde en mouvement, un monde complexe, qui échappe beaucoup...
Il y a le commerce.
Il y a le commerce.
On oublie parfois que le tabac a été introduit par les Espagnols dans la région.
C'est ça, tabac du Brésil. Ben, en tout cas, d'après les sources que je lis, c'est un moyen en fait, d'acheter en fait, la loyauté, ou du moins la paix, avec les principaux chers, donc les chefs de tribu avec lesquels les gouverneurs et les autorités espagnoles d'Oran étaient en contact. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'ils se réunissent dans la Real Alcafaba, donc dans la Casbah royale, donc ancien siège du wali musulman, il y a une assemblée qui se fait dans un esprit presque finalement, une coutume presque arabe. On se réunit, on est sur des coussins, on discute, on partage différentes denrées précieuses, et à ce moment-là, le gouverneur va offrir du tabac brésilien pour sceller le pacte. Et c'est très important.
La mondialisation.
Exactement. Et cette mondialisation se poursuit avec l'arrivée de l'argent qui vient du Mexique. Puisque, notamment à la fin du XVIIe siècle, la production mexicaine d'argent va connaître un boom qui va remplacer petit à petit celle du Pérou. Et à ce moment-là, on voit arriver un flux d'argent important. Chaque année, les Espagnols vont investir plusieurs milliers de reales de ocho, cette fameuse réo de 8, une pièce qui était considérée comme le dollar à l'époque, dont étaient très friands en fait toutes les populations méditerranéennes, y compris les Français.
Et, c'était le lingot de l'époque.
Exactement. Et l'idée, c'était de financer la présence espagnole à travers la livraison chaque année de plusieurs milliers de pièces, donc dans une livraison qui se faisait par les galères, et qui était souvent des livraisons assez périlleuses, hein, parce que la course étant telle, la piraterie étant telle dans le détroit, que la menace était réelle, sans parler même des escadres anglaises et françaises qui se feraient un plaisir de mettre la main sur ces trésors. Et donc cette monnaie-là constituait ce qu'on pourrait appeler un soft power, ce qui permettait aux Espagnols de tenir, puisque la compétition dans l'ouest algérien était très féroce, notamment à l'époque que j'étudie. D'un côté, il y avait le sultanat marocain, avec Moulay Ismail, qui était en pleine émergence, très puissant, très influent, avec une légitimité fondamentale, qui lui venait donc de sa descendance en fait, du prophète, et ça, les Espagnols ne pouvaient pas compter sur une telle légitimité. De l'autre figurait Alger, qui étaient donc les représentants du sultan ottoman, autre grande figure, sur lequel donc tous les agents ottomans pouvaient compter.
Et Tlemcen, le royaume de Tlemcen, qui était de plus en plus affaibli et qui était pris en tenaille entre ces puissances que sont l'Espagne de l'époque, le Maroc et l'Empire ottoman, et ses représentants à Alger, comme vous soulignez.
للبهجة روحي يا خليلي شطايت منا بنقام
للزهرة روح عيد رسلك توصل مركوب بالحزين في وهرا ساكنة غزالي لطرق شلواح الجام يتحمل صيد جاي فالي سرج يا فارس القام سرج يا فارس القام
Los moros de paz souvent sont considérés comme des renégats. Ils sont renégats au niveau, disons, de la loyauté vis-à-vis d'Alger ou la loyauté vis-à-vis de Tlemcen. Ils ne sont pas forcément des convertis.
Non, alors en fait, il y a une ambiguïté, apparemment, d'après les travaux qui ont été menés par les spécialistes de l'Orient ou des mondes arabo-berbères lors de la colonisation française. Les Mogatafes, qui viendraient en fait d'un terme arabe, donc c'est une étymologie dont on n'est pas sûr, qui voudrait dire peut-être ceux qui raptaient les enfants ou ceux qui étaient convertis. Alors c'est très difficile avec les sources que je consulte, sources espagnoles, de percevoir qui était vraiment converti ou pas. Il faut distinguer, on va dire, deux types de Moros de Paz. Il y a ceux qui vivaient dans une très grande proximité d'Oran, aux proximités physiques, c'est-à-dire qu'ils vivaient intramuros, dans les enceintes même de la ville, ou dans un faubourg d'Oran, qui s'appelait Ifri, à l'époque. C'était les populations qui étaient donc en rapport quotidiennement. Leur conversion, à loin d'être quelque chose d'évident, c'est vraiment pas sûr, ou alors ça peut être des conversions, ce qui était classique à l'époque méditerranéenne, de circonstances. Ce qu'on pouvait adopter plusieurs fois dans sa vie, ça se faisait, dans ce qu'on appelle les intermédiaires, les gens qui circulent entre les religions. Et à côté, il y avait l'immense majorité des Moros de Paz qui étaient musulmans, à n'en pas douter, et qui, eux, en fait, essayaient de vivre entre ces trois pouvoirs concurrents qui prétendaient chacun à une sorte d'hégémonie universelle. Donc, je le dis, le Maroc, la monarchie espagnole, et l'Empire ottoman à travers la régence d'Alger. Et ce qui est très important, je pense, c'est un des facteurs de renouvellement des études sur l'histoire de l'Ouest algérien, ça serait d'enquêter davantage sur ces populations locales. À travers les sources espagnoles, c'est quelque chose d'assez difficile, puisque les Espagnols vont poser un certain nombre de prismes, de filtres.
Oui.
Ce que un grand historien français, Serge Gruzinski, parle de sphères de cristal. Donc ils vont transformer la réalité des choses.
Qui sont d'ailleurs maintenant un véritable problème, même pour des historiens locaux, parce qu'on ne sait plus qui parle de quoi.
C'est ça, il faut confronter les sources, il faut confronter les disciplines, les anthropologues, les ethnologues, etc. ont énormément à apporter à l'histoire. J'essaye en tout cas de m'informer le plus possible. Sur les travaux qui ont été menés sur l'étymologie des tribus, leur comportement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en comprenant, en lisant comment fonctionnaient, comment réagissaient les tribus, on est capable d'expliquer certaines sources espagnoles.
Parce que la géographie, les chroniques ne sont pas suffisantes.
Ne sont pas suffisantes. Les chroniques vont faire souvent une indexation des tribus. Donc on arrive à recouper entre celles qui ont été menées par Ibn Khaldoun, les généalogies plus ou moins construites par les populations mêmes, et celles qui ont été faites ensuite par les chroniqueurs de l'occupation espagnole, et enfin celles qui sont faites pendant la colonisation française. Donc la linéarité des parcours n'est pas évidente, sachant quand on commence à s'intéresser au monde tribaux maghrébin, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'un nom de tribu peut être réparti à plusieurs espaces, dans plusieurs espaces même, à savoir si à ce moment-là c'était bien telle tribu qui était là, rien n'est sûr. Ensuite, il faut peut-être pas. Enfin, la difficulté est de savoir où mettre le curseur d'authenticité dans les sources espagnoles. On sait que les Espagnols avaient une représentation avec un certain prisme de leurs voisins arabo-musulmans. En même temps, ils partageaient avec eux une très longue et vieille histoire de frontières, de relations. Leur langue, et c'est peut-être aussi un des vecteurs de recherche, leur langue leur permettait peut-être aussi d'acquérir une certaine connaissance des termes, des désignations, des tribus. C'est toute la difficulté à laquelle notamment je suis confronté, c'est comment transcrire en fait les désignations en castillan des noms arabo ou arabo-berbères, voire même berbères. C'est quelque chose de très difficile, puisque à côté, les chroniqueurs anglais et français vont donner des versions plus ou moins proches. Et je pense que la linguistique, à ce niveau-là, aiderait énormément.
Oui, alors, je reviens à ce qu'est la ville en elle-même, avec son annexe, j'allais dire, Merzel-Kébir. Les Espagnols perdent la ville au début du...
Oui, en 1708.
Du 18e siècle. Ils doivent partir. Ensuite, ils reviennent quand même. Ils reprennent la ville. Pourquoi revenir à un endroit où finalement on s'est bien aperçu que on perdait de l'argent, et on n'avançait pas, quoi.
Alors c'est la question de est-ce que c'était une entreprise rentable, et c'est vrai que j'essaye là-dessus, je me placerai peut-être en discontinuité avec le discours canonique historiographique, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit toujours penser les choses comme un échec, un déclin, etc. C'est assez difficile puisque les sources de l'époque ne parlent pas d'échec. Les Espagnols, quand ils sont présents à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle, n'ont pas l'impression d'échouer en fait dans leur entreprise en Afrique du Nord. Pourquoi revenir ? Ils reviennent en 1732, ce serait une obligation par rapport à un projet espagnol dans le bassin méditerranéen occidental, plus ou moins entre les péninsules ibériques et italiennes. Or, déjà au début du XVIe siècle, la projection espagnole vers l'Italie, qui était, on peut dire, un peu la pépite européenne, l'endroit qu'il fallait contrôler et influencer pour les monarques européens, passait par l'Afrique du Nord. On peut voir les chronologies là-dessus sont très évocatrices, puisque au début du XVIe siècle, ce qui va arrêter en fait l'élan de conquête en Afrique du Nord, c'est la poursuite des confrontations avec la France en Italie. Au début, en 1732, d'après les recherches qui ont été menées sur ce sujet, l'idée était de reconquérir Oran comme tremplin vers une nouvelle reconquête en fait de la péninsule italienne qui avait été perdue pendant la guerre de succession d'Espagne. Donc c'est assez intéressant. Et le lien entre péninsule ibérique, Algérie et péninsule italienne se retrouve notamment dans le commerce avec la circulation des céréales, le blé, etc.
Pour ce cinquième programme de la série Confluence hispanique, Frontières, notre invité était Antoine Sénéchal, chercheur et membre scientifique de la Casa de Velázquez. Accompagnement musical, Pavana con Glosa, du compositeur Antonio de Cabezón, du XVIe siècle, exécuté par l'organiste Juan de la Rubia. Chant populaire du XVIe siècle de Francisco de Salinas, recueilli par Joaquín Díaz. Et pour finir, Ahmed Wahbi dans Sergio Férez, Ancelle Cavalier, un texte anonyme du XVIIIe siècle. À la technique se trouvait Pedro Berastegui. À très bientôt.